Brothers and sisters,
we welcome you. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir à la veillée du département d'éducation de l'Église pour les jeunes adultes. Nous sommes réunis au Marriott Center ainsi que dans les centres de pieux et les locaux de l'Institut de plusieurs pays. Je suis Robert Rowley, président du troisième pieu de l'Université Brigham Young. Nous souhaitons la bienvenue à Sœur Julie Beback, présidente générale de la Société de secours, et nous sommes reconnaissants que son mari Raymond l'accompagne ce soir. Nous présenterons Sœur Beck plus tard ce soir. Nous sommes reconnaissants de la présence de Cécile O. Samuelson, membre du premier collège des 70 et président de l'Université Brigham Young, et de sa femme Sharon. Nous souhaitons également la bienvenue à frère Rolf Kerr, membre émérite des 70 et commissaire au département d'éducation de l'Église, et à sa femme Janelle. À sœur Tanner, présidente des jeunes filles, et ainsi qu'à sœur Lant, et à son mari. Ainsi qu'à frère Bangader, membre émérite des 70 et de sa femme. Nous sommes très heureux d'avoir les Bangaders avec nous, car ce sont les parents de Sœur Beck. Nous souhaitons également la bienvenue à frère Russell Oskarsoft, 70, interrégion affecté au pieu des BYU, à sa femme, à frère Gary Moore, administrateur des séminaires et des instituts, et à sa femme, et frère Roger Christiansen, adjoint commissaire et secrétaire des conseils d'administration, et à sa Christie. Nous souhaitons ainsi la présence sur l'estrade d'autres administrateurs du DEE et de présidents de pieux et studentins de BYU et d'Orange College et d'Orem College avec leurs femmes ainsi que ma femme Catherine. Cette veillée est transmise par satellite et par Internet aux jeunes adultes d'âge universitaire d'Amérique du Nord et de nombreuses autres régions du monde. Elle est interprétée dans plusieurs langues pour diffusion et distribution ailleurs. Nous vous rappelons que le dimanche 4 mai 2008, frère Russell M. Nelson, membre du Collège des 12 apôtres, sera l'orateur de la veillée du DEE. Shinji Enogi a joué le prélude à l'orgue et accompagnera l'hymne que chantera l'Assemblée. Nous invitons l'Assemblée à chanter le cantique d'ouverture « Vrai disciple du Seigneur » numéro 27, sous la direction de Ben Gardner, après quoi Thomas Beck fera la prière d'ouverture. Après la prière, le chœur de l'Institut d'Ephraïm chantera « Hark All Ye Nations ». Il est dirigé par Greg Booth et accompagné par Sarah Grass.
Thank you.
Our Father in heaven, we are thankful for this beautiful Sabbath day and the opportunity we have to be here to hear this fireside to be nourished by the good word.
Et nous te remercions d'avoir l'occasion d'être nourris de ton esprit et nous prions que nous puissions être attentifs à ce qui va être dit et que nous puissions prendre note des messages et incorporer cela à nos vies. Nous te demandons de vouloir bénir, nous bénir. Et te remercions du sacrifice de ton Fils. Nous reconnaissons l'importance de ce sacrifice dans notre vie. Et nous prions que nous soyons dignes, afin que nous ayons ton esprit avec nous, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions, et que cette réunion nous soit bénéfique. Que nous puissions incorporer les messages qui vont nous être transmis. Et c'est la prière que nous laissons dans ton Fils Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of Sister Beck's remarks,
à la fin du discours de Sœur Beck, le chœur chantera tout au sommet des monts. Il sera dirigé par Joe Scholes et accompagné par Anna Nilsson. Ensuite, Jenny Doss fera la prière de clôture. À présent, j'ai l'honneur de vous présenter l'oratrice de ce soir. Julie Banger de Beck est née à Salt Lake City en Utah. Ses premiers souvenirs remontent au foyer de la mission au cœur de Sao Paulo au Brésil où elle a grandi. Elle y a vécu et respiré l'atmosphère missionnaire pendant que son père présidait la mission du Brésil. Quand elle est rentrée en Utah à l'âge de 9 ans, elle parlait couramment portugais et avait un profond amour pour l'évangile de Jésus-Christ. Elle a grandi à Granger en Utah, entourée de nombreux cousins et cousines qui, avec ses 10 frères et sœurs, constituaient la plupart de ses fréquentations. Pendant qu'elle était au lycée, sa famille est allée à s'installer à Alpine, en Utah, où ses parents avaient acheté une ferme des années auparavant. Au bout d'un an, à Dixie College, elle a fait la connaissance de son mari Raymond, natif d'Alpine. Ils se sont mariés au temple de Salt Lake City le 28 décembre 1973. Ils ont tous deux étudié à BYU, où ils ont obtenu leur licence. Sœur Beck a servi dans toutes les auxiliaires de l'Église, ainsi que dans le scoutisme. Avant d'être appelée comme présidente générale de la Société de secours à la conférence générale d'avril dernier, elle était première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Elle est, entre autres, membre du bureau d'éducation de l'Église et du conseil d'administration des établissements scolaires et universitaires de l'Église. Elle fait partie des conseils exécutifs et généraux de l'entraide et du fonds perpétuel d'études de l'Église. Elle a 3 enfants et 10 petits-enfants. Ses plus grandes joies sont de passer du temps en famille et de servir le Seigneur. Sœur Beck.
Merci, Président, et merci au cœur. Chacun a fait une responsabilité d'achever quelque chose, c'est-à-dire de chanter dans le chœur, et je les remercie pour cette préparation personnelle. C'est un grand honneur de vous parler. À vous qui êtes une génération royale, qui avait été choisie avant la fondation du monde pour paraître à cette époque afin de faire une œuvre importante. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous pendant mon service dans l'Église et j'ai été impressionnée par votre intelligence et votre bonté. Je peux vous imaginer maintenant dans vos rassemblements partout dans le monde, depuis les États-Unis, le Mexique, le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud, jusqu'aux Philippines, au Japon, à la Corée et aux nombreux pays européens. Je vous ai même vu arriver aux réunions par camion en République dominicaine. Nous apprenons dans le Livre de Mormon que quand la génération montante, c'est-à-dire vous, est convertie à l'Évangile de Jésus-Christ et garde ses alliances, alors l'avenir est lumineux pour tout le peuple du Seigneur. Mais quand la génération montante n'acquiert pas de témoignage et ne prend pas en ses mains ses responsabilités, les personnes plus âgées et plus fidèles commencent à perdre courage. Merci de votre belle vie et de l'avenir lumineux que vous allez nous apporter à moi et à tant d'autres. Nous sommes ici ce soir principalement parce que nous avons le témoignage de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Sans ce témoignage, cela n'aurait aucun sens de faire davantage pour vous apporter un message. Je sais que vous avez une croyance ferme entre Père Céleste, au Sauveur et dans les prophètes modernes. Sinon, vous n'auriez pas fait l'effort d'assister à cette réunion. Quand nous savons que l'Évangile rétabli est vrai, nous l'embrassons intégralement et pas simplement les parties que nous trouvons commodes. Nous croyons au plan de notre Père Céleste et à tout ce que les prophètes et les apôtres nous ont enseigné. Je sais que pendant que vous participez ce soir, le cœur ouvert dans l'esprit de la prière, l'Esprit vous transmettra à chacun des enseignements individualisés et importants. En réfléchissant et en priant le Seigneur pour apprendre ce qu'il voudrait que je vous dise ce soir, mes pensées sont allées bien souvent vers mes 79 nièces et neveux. J'ai marché avec eux, chanté avec eux, j'ai entendu leurs témoignages. Je les aime tous. Je sais que chacun d'entre eux a le désir d'apporter quelque chose de bon au monde et de faire en sorte que leur vie serve à quelque chose. 22 de ces 79 nièces et neveux sont des adultes seuls de votre groupe d'âge. De ces 22, 11 sont actuellement en mission ou en ont fait une et d'autres se préparent à partir. Certains se préparent au mariage, certains ont terminé leurs études et cherchent leur place dans le monde. Tous ont poussé ou poussent actuellement leurs études. Ce groupe de nièces et de neveux a des dons uniques. Et parmi eux, il y en a qui ont eu l'expérience de la maladie, des blessures, de la tragédie. Sachant qu'à beaucoup d'égards, mes nièces et mes neveux sont représentatifs de votre groupe, j'ai préparé ce message en pensant à eux. En pensant à eux, je pense à vous. Chacun de vous a été, est ou sera dans les mêmes endroits que ses nièces et neveux. J'ai cherché l'inspiration pour savoir comment je pourrais leur être utile pour certaines de leurs questions et, ce faisant, j'espère être également une aide pour vous. Je vous invite tous à faire partie de notre grande famille ce soir. Je vais vous parler comme une tante aimante qui se soucie de vous. La source de ce discours, c'est l'histoire d'Abraham et des bénédictions qu'il a reçues du Seigneur. Le prophète Abraham a connu la période de la vie dans laquelle vous êtes. Nous lisons cela dans la Perle de Grand Prix. Dans le pays des Chaldéens, dans la résidence de mes pères, moi, Abraham, je vis qu'il était nécessaire de me procurer un autre lieu de résidence. Abraham était arrivé au moment de voler de ses propres ailes et de commencer sa vie d'adulte. Il dit qu'il était disciple de la justice et désirait posséder une plus grande connaissance, être le père de nombreuses nations, un prince de la paix. Il savait qu'il y avait davantage de bonheur, de paix et de repos pour lui que ce qu'il avait alors. Il a recherché ses bénédictions. Il les a activement désirées. Le Seigneur lui dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai au-delà de toute mesure. Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations. Et tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi. En ceci qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. Et je la bénirai par ton nom. Car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité et se lèveront et te béniront, toi, leur Père. Et je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent et en toi et en ta postérité. Car je fais, toutes les familles de la terre seront bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut de la vie éternelle. » Cette alliance nous a été réaffirmée par Joseph Smith à la section 132 des Doctrines et Alliances. Ces bénédictions d'un bonheur, d'une paix et d'un repos accru sont les bénédictions que chacun de nous reçoit quand il fait des alliances dans les saints temples et qu'il fonde une famille éternelle. Votre bénédiction patriarcale vous aide à comprendre votre lignage personnel jusqu'à Abraham. Les dirigeants de l'Église parlent souvent aux jeunes adultes seuls de rechercher ces bénédictions. Des bénédictions qu'on ne peut trouver qu'en fondant une famille éternelle. Chacun de vous sait que son futur bonheur, sa progression éternelle et la croissance du royaume du Seigneur sur la terre dépendent de votre volonté de fonder une famille éternelle forte et heureuse. Saints des derniers jours fidèles de la génération montante, la plupart d'entre vous ont le témoignage et de leur responsabilité de se marier et d'avoir des enfants. Vous savez que vous ne pouvez pas bénéficier pleinement des bénédictions d'Abraham si vous êtes célibataire. Mais la plupart d'entre vous ne vont pas se marier demain. En fait, la plupart d'entre vous n'ont aucune idée de qui ils vont épouser. Ainsi, quand nous parlons de votre responsabilité de vous marier, nous pourrions créer des sentiments de contrariété parce que cette partie importante de votre progression éternelle ne figure pas dans votre calendrier. Cela me rappelle une expérience que mon mari a eue pendant qu'il faisait partie d'une équipe de basketball au lycée. Il s'était bien préparé et était les visiteurs de leur équipe rivale. Ils étaient physiquement et mentalement prêts à battre leurs adversaires. Ils étaient dans la salle d'habillage et l'entraîneur venait de terminer de les haranguer. Ils débordaient d'énergie, de confiance, pendant qu'ils couraient vers la porte qui menait au terrain de jeu. Et la porte était verrouillée. Les joueurs sont entrés en collision les uns avec les autres contre la porte. Et leur belle énergie s'est envolée dans la salle d'habillage avant même que le match ne commence. Je pense que c'est parfois ce qui vous arrive quand nous vous parlons du mariage et de la famille. Nous vous encourageons à devenir enthousiaste pour les possibilités, alors que vous avez peut-être le sentiment que vous poussez une porte verrouillée. Vous n'avez pas besoin de mener une vie d'attente et d'expectative. Vous n'avez pas besoin de perdre l'élan et l'enthousiasme que vous avez maintenant et dont le Seigneur a besoin de votre part pour édifier son royaume. Concentrons-nous donc sur les activités que vous pouvez faire en ce moment. Ces activités peuvent être les clés qui vous aideront à déverrouiller la porte menant aux bénédictions d'Abraham. Elles sont servir les autres, parler de l'Évangile, participer à l'œuvre du temple et de l'histoire de la famille et se préparer pour l'éternité. Toutes ces activités invitent le Saint-Esprit à être votre compagnon. Elles veillent à ce que vous restiez au bon endroit, à ce que vous fassiez ce qu'il faut faire, à ce que vous soyez avec les bonnes personnes et elles vous mettent à part comme disciples de Jésus-Christ. En participant à ces quatre activités avec ceux de votre âge, vous créerez des amitiés, des relations et vous aurez les fréquentations qui pourront vous aider à trouver quelqu'un pour vous marier dans le temple et fonder une famille éternelle. D'abord, servir les autres. Les années de l'adolescence et de jeunes adultes sont habituellement des périodes où l'on s'intéresse fortement à soi-même. Il y a tant de décisions à prendre. Il est facile de se replier sur soi. La première chose que moi, tant soucieuse de vous, je vous encouragerai à faire, c'est de vous oublier. Vous devriez probablement vous livrer à moins d'activités qui n'ont pour but que d'amuser, quand vous pourriez et devriez trouver des moyens de rendre la vie un peu plus facile à quelqu'un d'autre. La manière la plus rapide de trouver des amis, de trouver le bonheur, de vous sentir reconnaissant et d'avoir la compagnie de l'esprit et de vous mettre à genoux et demander au Seigneur « Qui a besoin de mon aide aujourd'hui ?» et de commencer à aider. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai vu un film sur deux jeunes hommes adultes qui vivaient dans les années 1800 en Angleterre. Ces hommes posaient cette question « Qui a besoin de mon aide ?» Ils avaient été témoins du terrible fléau du commerce des esclaves et avaient conçu l'idée qu'il pourrait changer le monde en éliminant ce commerce. C'était un projet tout à fait fou. Cela allait signifier qu'ils devaient changer l'économie entière de leur pays, sans parler des règles de la société et de moralité. Mais ces hommes ont dit, nous pouvons le faire. Ils ont conclu qu'ils étaient si jeunes qu'ils ne savaient pas qu'ils ne pourraient pas le faire. Il leur a fallu un certain temps pour mener à bien leur entreprise, mais ils ont fini par rendre ce grand service à l'humanité. Aujourd'hui, dans tous les pays de ce monde, il y a beaucoup de causes importantes qui auraient bien besoin de votre énergie, de votre vision. Partout dans le monde, des villes et des parcs ont besoin d'être nettoyés. Des écoles et des orphelinats doivent être construits et équipés en personnel bénévole. Les gouvernements ont besoin d'aide pour appliquer des principes corrects. Vous avez la force mentale, émotionnelle et physique pour faire ces choses. Beaucoup de causes importantes dans l'histoire ont été menées par des jeunes. Vous pourriez travailler à titre personnel ou vous organiser dans l'esprit de la prière dans vos appels. Groupes de jeunes adultes, de groupes de paroisses et d'instituts, et dans vos sociétés de secours et vos collèges de prêtrise. Ensemble, vous pourriez avoir un effet bénéfique dans le monde. La plupart des occasions de service se trouvent tout près de chez vous, dans vos familles et vos paroisses. Vous êtes maintenant suffisamment âgés et mûrs pour en prendre l'initiative de la planification et de l'organisation de ces types d'activités. Vous savez également comment recevoir la réponse aux prières pour apprendre ce que le Seigneur voudrait de vous. Tandis que vous jetez les regards autour de vous, l'Esprit sera avec vous pour vous guider dans toutes les décisions marquantes que vous prenez, parce que l'Esprit accompagne toujours le service juste. Vous n'aurez aucun mal à trouver des endroits pour servir. Tandis que vous servez avec ceux de votre âge, vous créerez de bonnes amitiés et aurez des expériences sociales importantes. Et parce que vos fréquentations et vos amitiés s'étendent, vous aurez de plus en plus de chances à trouver un conjoint et de fonder une famille éternelle. Deuxièmement, parler de l'Évangile. Ce monde est plein de gens qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous êtes un groupe particulièrement bien préparé qui peut aider la justice et la vérité à balayer la terre. Certains d'entre vous ont eu l'occasion d'être les premiers missionnaires à utiliser « Prêcher mon Évangile ». Cela étant, ceux qui se préparent à partir en mission devaient être parmi les missionnaires les plus qualifiés que le monde ait jamais connus. Ceux qui se préparent maintenant à aller en mission sont mieux placés que n'importe quelle autre génération pour être efficaces dès le premier jour de leur mission. Grâce aux possibilités que vous avez, vous devriez arriver prêt à servir. Vous devriez savoir comment vous qualifier pour recevoir l'aide de l'Esprit. En outre, ceux qui savent travailler dur quotidiennement sont beaucoup plus heureux pendant leur mission. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire les lettres de nièces et de neveux missionnaires décrivant les difficultés et les occasions spéciales de leur mission. Leurs lettres débordent de vitalité et de joie. Ils parlent de leur mission comme s'ils connaissaient les plus grandes aventures de leur vie. Ce désir ardent de faire connaître l'Évangile doit persister après la mission. Et bien sûr, vous, excellents missionnaires, ne devriez jamais mettre vos compétences de prosélytisme au rencard. parce que vous êtes célibataire et n'avez pas encore la responsabilité de pourvoir aux besoins d'une famille, vous êtes dans une situation parfaite pour continuer de faire connaître l'Évangile. Chacun de vous a des amis ou des membres de la famille qui ne sont pas encore convertis à l'Évangile et qui ne connaissent pas Dieu comme ils le devraient. Presque chaque paroisse ou branche de l'Église a des listes de personnes qui, pour une raison ou une autre, ont arrêté de venir renouveler leurs alliances à la Réunion de Sainte-Seine. Votre aide est essentielle pour les ramener. Et dans vos appels, comme amis ou individuellement, vous pouvez faire preuve de plus d'initiative dans la prédication de l'Évangile et ainsi ramener à l'Église les membres qui n'y viennent plus. J'ai vu un exemple de ce genre d'œuvre missionnaire quand j'étais jeune fille au Brésil, où mon beau-père était président de mission. L'une de nos sœurs brésiliennes a dit à mon père, quelques semaines après la fin de sa mission, elle dit qu'elle n'envisageait pas de fonder une famille dans l'Évangile parce qu'il n'y avait pas d'homme saint des derniers jours à épouser dans sa vie. Son président de mission lui a dit, « Vous venez de terminer une mission et vous avez enseigné l'Évangile et converti des gens. Avez-vous été une bonne missionnaire ?»« Oui, » a-t-elle répondu. « Avez-vous des compétences et l'esprit pour proclamer l'Évangile ?»« Oui, » a-t-elle affirmé. « Alors, je vous suggère de retourner dans votre ville. Fréquentez des endroits que fréquentent les jeunes, bons et dignes. Cherchez un homme qui ait l'apparence d'un missionnaire ou d'un futur évêque. Liez-vous d'amitié avec lui. Faites-lui connaître l'Évangile. Convertissez-le. » Il se pourrait que vous trouviez un homme à épouser si vous le faites. C'est exactement ce qu'a fait la sœur. Dans sa vie, elle a fait la connaissance d'un homme digne et bon. Elle s'est liée d'amitié avec lui, lui a fait connaître l'Évangile et s'est fait baptiser. Plus tard, un amour profond s'est développé et ils se sont mariés au temple. Il est effectivement devenu évêque, président de pieux, président de mission et président de temple. Mes amis, je ne suggère pas que c'est là la formule magique pour trouver un mari ou une femme. Rappelez-vous, comme cette sœur brésilienne l'a fait, que les prophètes ont recommandé à de nombreuses reprises de rechercher un conjoint parmi les membres de l'Église digne. J'ai raconté cette histoire pour illustrer que si vous continuez de faire connaître l'Évangile après votre mission, il est probable que vous vous ferez des amis dignes avec lesquels vous pourrez recevoir les bénédictions de l'Évangile et que ces nouveaux membres pourraient faire partie du groupe de vos conjoints potentiels. En vous organisant dans vos appels, en vous aidant de la prière, en groupe d'adultes seuls, en groupe de paroisses et d'instituts, dans vos cités de secours et collèges de la prêtrise, vous pourriez planifier et tenir des activités missionnaires sous la direction de la prêtrise. À présent, vous êtes suffisamment âgés et mûrs pour prendre l'initiative de la planification et de l'organisation d'activités de ce genre. L'Église a besoin de votre énergie dans cette œuvre importante. Beaucoup d'enfants de notre Père Céleste ont besoin du message de l'Évangile et ne connaissent pas encore la vérité. Vous avez les compétences et le témoignage nécessaires pour faire connaître l'Évangile. Vous avez les connaissances et le témoignage nécessaires pour promouvoir l'œuvre du Seigneur. Vous savez aussi comment recevoir des réponses à vos prières pour apprendre ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Quand vous ferez connaître l'Évangile, l'Esprit sera avec vous pour vous guider dans toutes les décisions importantes que vous prendrez. Parce que l'Esprit vous accompagne toujours quand nous enseignons et témoignons de la vérité. En faisant connaître l'Évangile aux gens de votre âge, vous ferez de bons amis et vous aurez de belles expériences aux relations humaines. Et parce que vos fréquentations et vos amitiés s'étendront et que l'Esprit opérera en vous, vous aurez plus de chances de trouver un conjoint et de fonder une famille éternelle. Troisièmement, participez à l'œuvre du temple et à l'histoire familiale. Vous êtes la force parfaitement préparée pour le faire. Quand vous étiez jeune, Jean et jeune fille, vous avez reçu la tâche de travailler à votre programme du devoir envers Dieu et mon progrès personnel. Vous vous rappelez que sur la couverture des fascicules, il y avait l'image du temple. La raison en est que la première présidence a choisi le temple comme symbole de la jeunesse de l'Église. Vous, jeune femme, si vous avez mérité le médaillon, le temple est-il encore le symbole de votre vie? Vos regards sont-ils encore dirigés vers le temple? Vous, jeune homme, pourriez-vous dire la même chose? Vous savez que pendant des siècles, beaucoup de gens sont morts sans avoir la connaissance de l'Évangile. Ces gens appartiennent à votre parenté proche et lointaine. Ils attendent que vous fassiez les recherches nécessaires pour lier votre famille et accomplir les ordonnances salvatrices en leur faveur. L'œuvre du temple et de l'histoire familiale sont aidées par les connaissances techniques. Il semble que vous soyez une génération spécialement préparée et dotée du talent technologique pour accomplir cette œuvre. Ma grand-mère Bangatter avait un profond témoignage et le sens de l'urgence de cette œuvre. Il y a de nombreuses années, pendant qu'elle compilait 25 000 noms de sa famille, elle devait noter chaque nom à la main sur les imprimés. Comme elle aurait été reconnaissante d'avoir un programme informatique pour l'aider à être plus exacte et plus efficace. Aujourd'hui, elle a des centaines de jeux talentueux parmi ses descendants qui sont capables de l'aider de ce côté-ci du voile. Votre famille a besoin de votre aide. Votre paroisse ou votre branche a besoin de votre aide dans cette importante activité. La plupart des temples du monde ne sont pas assez fréquentés. Le Seigneur a promis d'implanter dans votre cœur les promesses faites aux pères et de tourner votre cœur vers les pères, afin que la terre ne soit pas entièrement détruite à sa venue. Votre compétence technique sont l'accomplissement partiel de cette prophétie. Et j'espère que vous avez le sentiment de l'urgence de cette œuvre. Vous êtes né à cette époque pour faire l'œuvre du temple et l'histoire familiale. Il y a aussi des bénédictions personnelles à retirer de la participation à l'œuvre du temple et d'histoire familiale. L'une d'entre elles est de pouvoir se qualifier pour avoir une recommandation, ce qui indique que l'on est digne aux yeux du Seigneur. Une recommandation au temple est un symbole d'obéissance. Quand vous participez à cette œuvre avec des gens de votre âge, vous savez qu'ils sont dignes aussi. Une histoire qu'on raconte souvent dans ma famille illustre l'importance de la recommandation à l'usage du temple. Quand elle était jeune adulte, l'une de mes sœurs a dansé un soir avec un homme qu'elle a eu envie de mieux connaître. De retour à la maison, elle a parlé de lui à ma mère. Ma mère, qui était sceptique, a dit qu'il n'était pas possible de savoir si un homme était bon, rien qu'en dansant avec lui. Ma sœur lui a répondu, « Il a une recommandation pour le temple, alors il doit être assez bon. » Ma mère lui a demandé, « Comment sais-tu qu'il a une recommandation? Est-ce que tu lui as demandé pendant que tu dansais? » Au fait, vous avez une recommandation? Ma sœur a ri et a répondu, « Non. » Mais il a dit qu'il devait aller au temple de demain avec un compagnon missionnaire. Alors, il doit avoir une recommandation. Ma mère lui a demandé délibérément, « Pourquoi est-ce important de le savoir ?» Ma sœur a répondu, « Eh bien, si je sais qu'un homme a une recommandation, je sais qu'il respecte la parole de sagesse, je sais qu'il paie la dîme, je sais qu'il va à ses réunions, je sais qu'il honore sa prêtrise, je sais qu'il soutient les dirigeants de l'Église, et je sais qu'il a un témoignage de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Je veux commencer avec une recommandation comme base de toute relation. Je n'aurai pas besoin de poser toutes ces questions du moment qu'il a une recommandation. Une récente instruction de la première présidence explicite les règles concernant l'obtention d'une recommandation et la réception de la dotation. Elle répète que la réception de la dotation personnelle est quelque chose de sérieux, qui ne doit être accordé qu'aux personnes suffisamment préparées et mûres pour respecter les alliances qu'elles contractent. Elle affirme aussi que les membres célibataires de 18 à 25 ans, qui n'ont pas reçu d'appel en mission et qui ne sont pas fiancés pour se marier au temple, ne doivent pas être recommandés pour aller au temple pour recevoir leur dotation personnelle. Cependant, tout membre âgé d'au moins 12 ans peut recevoir une recommandation à usage limité pour accomplir des baptêmes pour les morts. Si vous n'êtes pas digne aujourd'hui d'avoir le droit de détenir une recommandation, vous devez vous faire aider par votre évêque ou votre président de branche pour vous qualifier le plus tôt possible. Je vous le demande. Ne vous passez pas de ce document vital. Je témoigne que l'expiation est réelle et que l'on peut obtenir le pardon de ses péchés en se repentant comme il se doit. Vous pouvez aussi faire que les temples restent très occupés. L'œuvre du temple et l'histoire familiale vous concernent. Beaucoup dépend de vous. L'Église a besoin de votre énergie dans cette œuvre importante. Vous pouvez accomplir tant avec votre énergie et vos compétences. En participant à l'œuvre du temple et à l'œuvre du temple, Vous êtes certain d'avoir l'esprit pour vous réconforter dans vos difficultés, vous aider dans toutes les décisions importantes que vous prenez. En participant à cette œuvre, personnellement, ou bien dans votre paroisse et vos groupes d'instituts, ainsi que dans vos sociétés de secours et vos collèges de la prêtrise, vous ferez de bons amis, vous aurez de belles expériences de relations humaines. Et parce que vos fréquentations et vos amitiés s'étendront et que l'esprit opérera en vous, vous aurez plus de chances de trouver un conjoint et de fonder une famille éternelle. Quatrièmement, préparez votre avenir. Vous êtes à une période unique de la vie. Vous devriez être en train de vous préparer à vos rôles et vos responsabilités futures. Vous ne vivez cette période qu'une fois. Profitez-en. Dans le cours naturel des choses, la plupart d'entre vous deviendront des maris et des femmes. Vous serez des pères et des mères. Vous serez des dirigeants, des instructeurs de l'Église. Vous serez des salariés, des employeurs. Est-ce que vous vous préparez à ces responsabilités? Bien entendu, beaucoup d'entre vous sont occupés à faire des études d'une sorte ou d'une autre. Les prophètes des derniers jours vous ont recommandé à maintes reprises de vous instruire le plus possible. Vous vivez dans un monde de plus en plus technique et sophistiqué. L'instruction vous aidera à édifier le royaume du Seigneur et à subvenir aux besoins de votre future famille. C'est parce que l'instruction est extrêmement importante pour la régénération montante que le Fonds perpétuel d'études a été établi et bénéficie aujourd'hui à plus de 30 000 jeunes de par le monde. L'Église a aussi investi beaucoup de moyens dans les instituts de religion dans le monde entier et dans d'excellents établissements scolaires et universitaires de l'Église. J'espère que vous suivez la recommandation des prophètes d'obtenir toute instruction et toute la formation possible. C'est vrai que vous serez mieux à même de servir dans l'Église et d'édifier le royaume du Seigneur si vous avez un bon travail. Mères et pères seront de meilleurs parents s'ils sont instruits et savent résoudre des problèmes familiaux et gérer leur foyer avec sagesse. Certaines d'entre vous, jeunes femmes, sont en train de décider soit de marier, d'avoir des enfants, soit de faire carrière. C'est parce que vous êtes brillantes, qualifiées et que vous avez des possibilités dont vos grands-mères n'auraient jamais rêvé. Les possibilités d'être reconnues et de vous faire une place sur la scène du monde n'ont jamais été plus grandes. Mais j'espère que vous prenez vos décisions en pensant aux bénédictions d'Abraham. Les saints des derniers jours doivent comprendre que quel que soit le nombre de personnes à qui elles font appel pour les aider avec leur foyer et leurs enfants, elles ne peuvent pas déléguer leur rôle d'éducatrice et d'enseignante principale de leurs enfants. Être une bonne mère exigera toujours toutes les réserves dont on dispose pour répondre aux besoins de ses enfants. En tant que fille de Dieu qui a contracté des alliances avec lui, chacune d'entre vous porte la moitié féminine essentielle et indispensable de la responsabilité d'accomplir le plan du Seigneur. Chacune de vous a la faculté de choisir dans la prière et l'humilité la manière d'envisager ses possibilités professionnelles. Chaque fois a une conséquence. Vous ne pouvez pas tout avoir et tout faire. Vous devez choisir avec à l'esprit des priorités éternelles. J'espère que vous comprendrez qu'il n'y a pas de métier de prestige. Tout travail comporte ses difficultés. Beaucoup de choix disponibles dans le monde d'aujourd'hui sont en conflit avec les objectifs et les responsabilités éternelles. Beaucoup de choix pourraient vous persuader de reporter la naissance de vos enfants ou d'en limiter le nombre. Beaucoup de choix pourraient vous priver du temps et de l'énergie qui sont nécessaires pour veiller comme il se doit sur votre mari et vos enfants et de vous acquitter de vos responsabilités dans le royaume du Seigneur. Ce sont des décisions à prendre avec le Seigneur. Il connaît vos aspirations intimes et votre situation personnelle. La plupart de vous, êtes-vous en train d'acquérir les qualités que doit avoir un conjoint éternel, de les rechercher chez un conjoint éternel? Il y a quelque temps, le président Hinckley a dit aux hommes, la jeune fille qui vous épousera prendra un risque énorme avec vous. Elle se donnera tout entière à l'homme qu'elle épousera. Il déterminera en grande mesure ce que sera sa vie avec elle. Jeunes hommes, êtes-vous en train de devenir une personne qui pourrait demander à une jeune fille de prendre le risque de l'épouser? Jeune femme, on pourrait vous demander la même chose. L'homme qui vous épousera prendra aussi un risque avec vous. À la section 25 des Doctrines et Alliances, le Seigneur donne aux femmes le bon conseil de réconforter leur mari par des paroles de consolation dans l'esprit d'humilité. Êtes-vous une telle femme l'homme que vous épouserez sera heureux dans une grande mesure du fait de votre influence. Certains d'entre vous ont déjà trouvé quelqu'un qui les attire, avec qui ils sont compatibles et qui possède des qualités qu'ils admirent. Mais peut-être avez-vous peur de vous engager parce que vous vous demandez si demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine, vous ne trouverez pas quelqu'un encore plus idéal. Du fait de l'importance de cette décision, beaucoup d'entre vous s'inquiètent de faire le bon choix. Les exemples de manière de choisir un conjoint donnés dans les films et les romans ne nous aident guère. Ils montrent souvent ce choix comme étant une question de choix ou de destin, comme un événement magique. Ces idées sont souvent représentées de manière irrationnelle, comme la découverte instantanée de l'âme sœur unique. Concernant ces prétendues âmes sœurs, Spencer Kimball a dit, et je cite, « L'âme sœur est une fiction et une illusion. Chaque jeune homme et chaque jeune femme doit rechercher avec la plus grande diligence et dans la prière à trouver un conjoint avec qui la vie soit compatible et belle. Cependant, il est certain que presque tout homme bon et femme bonne peut connaître le bonheur et la réussite conjugale si tous deux sont disposés à en payer le prix. » Fin de citation. Les prophètes nous ont donné des directives inspirées pour vous aider à trouver un conjoint. Il y a 20 ans, Ezra Benson a indiqué certaines des qualités qu'un homme doit rechercher chez une femme. Écoutez-le dans cette vidéo.
Frère, n'attendez pas la perfection de la femme que vous choisirez. Ne soyez pas si regardant que vous négligiez ses principales qualités, un témoignage solide, le respect des principes de l'Évangile, un foyer où règne l'amour, la volonté d'être une mère en Sion et son soutien à vos responsabilités de la prêtrise. Et voici un bon critère pour choisir votre épouse. En sa présence, avez-vous vos pensées les plus nobles? Aspirez-vous à agir au mieux? Souhaitez-vous être meilleur?
À présent, écoutez le conseil du président Hinckley aux femmes.
Vous espérez attraper l'homme parfait. Je n'en ai pas encore vu de parfait.
Aim high.
Visez haut.
Mais
ne visez pas trop haut, vous risqueriez de rater la cible. Ce qui importe vraiment, c'est qu'il vous aime, qu'il vous respecte, qu'il vous honore, qu'il vous soit totalement loyal, qu'il vous donne la liberté de vous exprimer et qu'il vous laisse prendre votre essor et cultiver vos talents. Il ne sera pas parfait. Mais s'il est gentil et prévenant, s'il sait travailler, gagner sa vie, s'il est honnête et plein de foi, il y a des chances pour que vous ne vous trompiez pas, que vous soyez extrêmement heureuse.
Merci, Président Hinckley. Donc, je vais vous poser une question. Si vous deviez vous marier demain, êtes-vous prêt à être un bon mari, une bonne épouse? Apporteriez-vous dans votre mariage des qualités personnelles qui feraient de vous un bon conjoint? Savez-vous bien communiquer? Savez-vous bien résoudre des problèmes? Avez-vous les compétences nécessaires pour créer une atmosphère propice à l'éducation des enfants? Avez-vous assez de foi, d'espérance et de charité pour édifier un mariage qui survivra et prospérera? Jeune homme, je vous parle franchement comme une tante le ferait. J'espère que vous comprenez qu'il n'y a pas une femme digne qui sera charmée par le linge sale, par des habitudes désagréables ou une présentation négligée. Certes, une femme juste vous aimera pour votre intellect et votre cœur, mais elle apprécierait beaucoup vos efforts sincères pour montrer de bonnes manières et l'attention à son égard. Vous devez aussi savoir que pas une épouse ne fermera avec joie les yeux sur l'égoïsme. Rappelez-vous qu'une fille de Dieu juste ne tolérerait pas de bon gré que le jeune homme qu'elle fréquente et qu'elle épouse soit adonné à la pornographie. En fait, si une jeune fille a le moindre soupçon que le jeune homme qui l'intéresse s'adonne à la pornographie sous quelle forme que ce soit, je lui recommande de considérer cela comme un clignotant rouge qui lui dit de mettre fin à cette relation. À vous, jeune homme, c'est maintenant que vous devez acquérir des habitudes de droiture, de respect et des qualités chrétiennes qui seront une bénédiction pour votre future famille. Jeune femme, je vous parle comme votre tante qui vous aime. Il n'y a pas de prince magique qui appréciera avec joie des habitudes malpropres ou désagréables ou un aspect négligé. Et il est vrai qu'un homme juste vous aimera pour ce qui est dans votre esprit et votre cœur. Mais il sera encore plus reconnaissant d'avoir une femme qui aime la propreté et la beauté pour elle-même et dans ce qui l'entoure. Les hommes justes sont attirés par les femmes qui sont radieuses. Par ailleurs, aucun détenteur d'apprêtrise juste ne tolérera des habitudes de pornographie chez sa femme et il n'appréciera pas qu'elle affiche son corps précieux aux yeux d'autres hommes par des vêtements moulants ou une tenue et une conduite impudique ou inconvenante. De plus, je n'ai encore jamais rencontré d'homme qui aime les démonstrations sentimentales et les crises de colère. Et il n'y a pas de conjoint qui ignorera joigneusement l'égoïsme. C'est maintenant que vous devez acquérir des habitudes de droiture et de respect et des qualités chrétiennes comme la gentillesse et la patience qui seront une bénédiction pour votre famille future. Comprenez bien ce que je veux dire. Je veux que vous sachiez que vos imperfections et vos faiblesses vous suivront dans votre mariage et ils seront amplifiés. À moins que vous ne vous mariez aujourd'hui, vous avez encore le temps d'éliminer les mauvaises habitudes et d'acquérir de bonnes habitudes et des qualités qui seront une bénédiction pour votre mariage et votre famille. Thomas Monson a enseigné, il vaut la peine d'y penser à l'avance, de définir le moyen d'y arriver, d'être au moins en partie prêt quand le moment de la décision arrive. La plupart d'entre vous seront aussi des pères et des mères qui fonderont un foyer juste pour leur famille. Quand j'étais jeune, ma mère m'a enseigné que tandis que j'étais célibataire, je devais apprendre à prendre soin de ma vie et ma chambre afin de me préparer à prendre soin de plusieurs vies et plusieurs chambres. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur dit comment doit être une maison où règne l'Esprit. Cela doit être une maison de prière, de jeûne et de foi. Cela doit être une maison où l'Esprit du Seigneur puisse demeurer, où on ne permet à rien d'impur de pénétrer. Une maison de connaissance où on étudie les meilleurs livres, dont les Écritures. Cela soulève les questions suivantes. Le foyer ou la chambre où vous vivez actuellement, sont-ils cette sorte de maison? Dans votre chambre, priez-vous? Jeûnez-vous et lisez-vous les Écritures? Vivez-vous dans un lieu d'ordre ou de désordre? Laissez-vous entrer des choses impures par des films, des livres ou l'Internet? Est-ce que vous remplissez votre chambre de choses édifiantes, des meilleures choses? Votre foyer actuel est-il un lieu où l'Esprit du Seigneur peut demeurer? De plus, il y a quelques compétences importantes que vous devez acquérir qui vous aideront à être un bon père ou une bonne mère et à fonder un foyer heureux. Ces compétences peuvent être la cuisine, le ménage, la réparation des choses cassées. De sages habitudes financières sont aussi très importantes pour un mariage heureux. Cela comprend la gestion attentive de prêts étudiants. Le président Hinckley a dit, il n'y a rien qui puisse causer plus de tension dans le mariage que les dettes écrasantes. Une partie de votre préparation au mariage et à la famille consiste à avoir maintenant de bonnes habitudes et pratiques financières pour que lorsque vous vous marierez, votre conjoint et vous puissiez commencer ensemble dans la vie sans fardeau financier énorme. Vous êtes maintenant considérés comme des adultes et vous savez s'agir en personne responsable. J'espère que vous utilisez au mieux le précieux don de temps que vous avez pour vous préparer à vos futurs rôles et responsabilités. Si vous vous préparez comme il faut à vos futurs rôles et responsabilités, l'Esprit vous guidera pour prendre des décisions importantes. En vous préparant à votre avenir, il est vraisemblable que vous nourrez les amitiés qui vous aideront à trouver quelqu'un à épouser au temple pour fonder une famille éternelle. Maintenant, mes chères nièces et neveux, mes amis, je veux vous exprimer mon amour et ma confiance. Beaucoup dépend de vous. Il vous a été maintes fois dit que vous avez la responsabilité de rechercher les bénédictions d'Abraham, qui comprennent la formation d'une famille éternelle. Je vous exhorte à ne pas repousser inutilement le mariage et les enfants. C'est maintenant que des esprits vaillants attendent que vous les invitiez dans une famille heureuse et scellée. Vous êtes à l'époque de votre vie où vous devez rechercher les bénédictions d'Abraham. Reportez le mariage jusqu'à ce que vous ayez accompli votre objectif. Même si le monde dit qu'ils sont très importants, ne faites qu'accroître votre vulnérabilité à l'immoralité qui pourrait mettre en danger vos chances de recevoir ces bénédictions. S'il vous plaît, ne risquez pas les tentations en reportant cette étape naturelle et importante de votre progression éternelle. Quand vous êtes arrivé au choix de la personne à épouser, ce dont vous avez le plus besoin est la foi. Attendre d'accomplir d'autres objectifs, comme faire plus d'études, avoir plus d'argent, plus de biens avant le mariage, ne fait que retarder les bénédictions promises. Je vous ai parlé ce soir comme une tante qui vous aime. Vos propres tantes et oncles vous ont aussi probablement donné des conseils. Je suis sûre que vos dirigeants de la prêtrise, instructeurs et consultants se sont aussi intéressés à votre avenir. J'espère qu'en cette période importante de votre vie, vous écoutez attentivement les conseils de vos parents, justes, qui ont la responsabilité éternelle de votre bien-être. Le président Monson a dit, pour prendre une décision aussi importante que le choix d'un conjoint, je vous suggère de demander l'aide de vos parents. Prenez le temps de vous confier à eux, car ils ne vous laisseront pas et ne vous abandonneront pas. Ils vous aiment tendrement et veulent pour une fille précieuse ou un fils vaillant le meilleur de la vie et les bénédictions finales d'éternité. Fin de citation. J'ai parlé ce soir de 4 clés qui peuvent vous aider à ouvrir la porte de ces bénédictions. Vous pouvez et devez rendre service. Vous pouvez et devez faire part de l'Évangile. Vous pouvez et devez être sauveur sur le mont de Sion en participant à l'œuvre du Temple et à l'histoire familiale. Vous pouvez et devez faire tout votre possible pour vous préparer à vos rôles et responsabilités futures. Les 4 activités que j'ai décrites feront grandir votre foi et votre bonheur toute votre vie. Ce sont les marques de fidélité qui fortifieront votre mariage et votre famille à venir et susciteront la présence de l'Esprit. En participant à ces activités individuellement, avec vos amis, votre collège, la société de secours et les groupes d'instituts, vous édifierez une sociabilité et des amitiés qui vous maintiendront aux bons endroits, à faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, augmentant ainsi vos chances de rencontrer les personnes qui pourraient être votre futur conjoint. Je témoigne que notre Église est dirigée par des apôtres et des prophètes qui supervisent et dirigent les affaires du Seigneur dans le monde. L'Évangile rétabli de Jésus-Christ est vrai, parce qu'il est vrai. Beaucoup de choses dépendent de vous, la génération montante. En tant que tante aimante, j'espère que vous serez, comme Abraham, des disciples justes, que vous rechercherez les bénédictions des pères en contractant les alliances du Temple et en fondant des familles éternelles, trouvant ainsi plus de connaissances, de bonheur, de paix et de repos. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Top, the banner is unfurled. We may
Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants de nous avoir réunis ici, de partout dans le monde, et d'avoir écouté les paroles de Sœur Beck. Nous sommes reconnaissantes pour elle. Nous sommes reconnaissants pour l'esprit que nous avons ressenti ici ce soir. Nous te demandons de nous aider et de nous aider à conserver ce sentiment dans notre cœur et de faire les choses que nous devrions faire, de trouver des moyens de te servir. Nous te demandons de t'aider, de nous rappeler de toutes ces choses que nous avons écoutées aujourd'hui, de find a way, de partager l'Évangile et notre témoignage avec les autres pour les aider, de partager notre joie que nous avons. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
This is the French language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.